Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le dimanche 27 juin 2021, il est 20h. Et on joue encore une fois l'Euro.
Allez, Eden. Eden Hazard, la petite pichenette vers Axel Witsel.
Witsel qui récupère la passe en retrait.
Pour Lukaku, contre
bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour une édition particulièrement attendue par tout le monde ici. Avec moi, en plateau, en studio ce soir, Didier Cohn. Salut Didier.
Salut tout le monde, bienvenue à vous toutes et tous qui nous écoutez avec des nouvelles toutes fraîches puisqu'on vient de quitter notre rédaction après avoir regardé un match fort plaisant, ma foi, on y reviendra.
Absolument. Henri, Daniel, salut Henri, comment vas-tu ?
Salut Sam, un peu nerveux, on attend impatient.
Il a Henri à son maillot, le blason sur le cœur.
Moi, je suis encore en échauffement, mais j'ai comme Steve qui est prêt à monter sur le terrain.
Mais Steve Gris est là avec son maillot. C'est un vrai diable, je peux vous le confirmer. Son numéro 40, qui fait référence sans doute
à mon nouvel âge.
Donc, si je comprends bien, ce maillot ne sera valable qu'un an, quoi.
Toutes nos félicitations.
Bah, vu que j'ai bon espoir qu'il soit collector, j'espère l'égrener jusqu'à la fin de ma vie.
Et ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Ils m'ont pris, c'est des amis qui se sont collectés, ils m'ont pris du large.
Oui, ils ne connaissaient pas bien.
Ils m'avaient pris du S, qui était un peu boudinant. Là, le large, à mon avis, j'ai le temps de voir venir avec la bedaine.
Bon, alors, on te souhaite qu'il soit effectivement collector pour le moment où tu auras cette fameuse bedaine.
On verra déjà ce soir. Hein.
Voilà, on va commencer chaque chose en son temps. C'est une autre compétition qui commence, c'est un petit peu ce que disent toutes les sélections qualifiées. On oublie ce qui s'est passé au premier tour. Les meilleurs du premier tour, bah, c'est très bien, ils ont bien joué, mais ils repartent. Comme tous ceux qui ont eu de la peine à se qualifier, ils repartent de quasiment zéro. On a eu deux matchs hier, qui pour ouvrir les huitièmes de finale.
Ah oui, parce que
l'adjectif n'était peut-être pas.
Voilà.
Ah, le Danemark.
Le Danemark,
on va certainement y revenir. Ah, mais oui. Ça valait la peine. Ça valait la peine de voir jouer.
Absolument. Ouais. Aujourd'hui, on a ouvert le bal avec nos voisins du Nord, et pour, on va dire tout de suite à nos auditeurs que s'ils espéraient à un moment donné avoir un Belgique-Pays-Bas dans le tournoi, eh bien, c'est râpé. Ce sera pas pour cette année. Les Néerlandais se sont fait sortir à la surprise générale quand même, même si les Tchèques avaient montré quelques belles choses. Patrick Schick a encore frappé. Il a le chic pour...
En espérant que les diables et les oranges ne se croisent pas dans un aéroport demain ou après-demain, ça m'arrangera.
Absolument. Et bien sûr, on attend... qu'est-ce qui se passe ce soir à 21h?
Ah oui, c'est... Je sais pas, il y a du foot, je crois.
Il y a un épisode de Derrick.
L'intégrale
de Derrick.
De Derrick Boyata, peut-être. En tout cas, on attend dans 56 minutes maintenant, ce sera le coup d'envoi de Belgique-Portugal, le huitième de finale tant attendu. Mais en attendant, justement, je vous propose qu'on revienne sur les matchs qui ont eu lieu ce week-end, à commencer par celui qui était loin d'être le plus vilain, bien au contraire, le match qui opposait le Pays de Galles au Danemark. Victoire des Danois sans appel, 0-4. Qui veut commencer? Steve, toi qui as vu un beau match.
Ah oui, mais vraiment magnifique et surtout... Je vous ai écrit pendant le match qu'il y a une espèce de grâce ésotérique, métaphysique qui est en train de se créer avec cette équipe du Danemark. Et c'est vrai, j'ai l'impression que peu importe même jusqu'où ils vont, ils sont en train d'écrire une page d'histoire qui sera quelque chose dont on se souviendra très 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 longtemps. Comme on se souvient du Danemark en 92, comme on se souvient d'autres épopées un peu particulières qui font la beauté du sport. Et bien là, il y a quelque chose qui se passe. Jamais on aurait cru que cette équipe, d'un point de vue individuel et collectif, soit à ce point impressionnant, au-delà du fait qu'elle soit maintenant en quart de finale, mais au niveau du jeu développé. Et nous, petit diable avons eu l'occasion, ou grand diable, avons eu l'occasion en tout cas de les tester, on n'en est pas sorti indemne. Et par la suite, ce qu'ils ont fait, les deux matchs qu'ils viennent de produire, c'était une vraie furia. Ouais. C'est une vraie dimension collective, avec du beau jeu, avec beaucoup de goals, et on a l'impression qu'il y a un aura, c'est pour ça que j'ai employé métaphysique, mais ils sont portés par quelque chose qui va au-delà de ce qui peut être rationnellement considéré, et on se demande jusqu'où ça va s'arrêter,
jusqu'où ça va aller.
Jusqu'où ça va aller, et si ça va s'arrêter, oui. Et on se demande, et finalement, quand on voit tous les supporters d'Europe sont contents pour eux, les suivent, sont heureux, enfin, il y a quelque chose qui est vraiment absolument en train de se faire.
Je suis pas sûr que les Gallois...
On est d'accord, pas jamais ceux qui croisent leur route, mais sinon, c'est formidable. Et hier, le Pays de Galles a existé pendant la première moitié de la mi-temps. On va arrêter ça. Pendant la première moitié de la mi-temps, mais par la suite... Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Alors, ils ont marqué les deux derniers goals, certes, dans les toutes dernières minutes, mais même au-delà de ça, les Gallois n'ont jamais. On n'a jamais pensé à un moment que les Gallois pouvaient revenir dans le match. À partir du moment où ils ont marqué ce très beau premier goal, c'était vraiment magnifique. Et en plus, vous vous rappelez cet attaquant qui nous avait fait tellement mal, Poulsen, là, qui était dans tous les bons coups,
ne
jouait pas. Et honnêtement, lui, c'était vraiment celui qu'on avait retenu contre les Diables.
C'est vrai, et c'est vrai que tu parles de Poulsen qui ne jouait pas. On revient bien sûr sur le grand absent, c'est Eriksen, et comme pour poursuivre avec ce que tu disais, on peut penser effectivement qu'avec Eriksen, on ne pense pas que les Danois auraient eu auraient peut-être sans doute pas atteint un tel niveau.
Maintenant que tu le dis, Poulsen, Eriksen, ne serait pas un peu cousin aussi, oui.
Mais c'est vrai que je suis assez d'accord qu'il y a quelque chose du domaine de l'irréel peut-être, enfin il y a quelque chose d'assez incroyable qui entoure cette équipe du Danemark.
Les voilà, je trouve que ça fait la magie de ces grands tournois.
Ouais.
On ne sait pas très bien ce qui les drille, outre la volonté de se battre parce qu'ils ont vécu un coup tellement dur lors du premier match qui a éveillé en eux une dimension collective de battant. Mais ils vont loin là-dedans, et ils jouent bien.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas une blessure, c'est pas comme vous voyez un de vos coéquipiers se faire avoir un tacle qui lui casse la jambe. Là, ils ont vu mourir leur copain, et forcément, ça donne une force de caractère supplémentaire.
C'était pas automatique, hein, mais en tout cas, c'est l'effet qu'on se rend compte. On a l'impression qu'ils se sentent investis d'une mission.
Ouais. Didier.
Moi, je reste fidèle à ce que je disais, c'est-à-dire que je trouve que, depuis toujours, le football scandinave est un football rafraîchissant. C'est un mélange de physique, de technique. C'est pas aussi naïf qu'un Aura football comme on a pu le connaître il y a 20 ou 30 ans, ou même un peu plus. C'est construit, c'est pensé. On le voit. Alors effectivement, vous l'évoquez, un Danemark, on l'aurait dit avant l'Euro, on aurait dit le Danemark se présente sans Eriksen et sans Poulsen, ça aurait été un oiseau pour le chat dans toutes les presses européennes et même mondiales. Il se trouve que moi je retiendrai une image de ce match en dehors du résultat bien sûr, et c'est, je te rejoins Steve, le match était extrêmement plaisant à regarder, et on s'en doutait, on s'était dit tous ici lors d'une précédente émission, c'est le huitième de finale le plus attrayant au-delà de l'affiche, je veux dire. L'affiche, c'est bien sûr Belgique-Portugal. On savait que ça n'allait pas être le mettre le bus, etc. Et ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai trouvé pour ma part le Pays de Galles pas au niveau de ce qu'il avait montré jusque-là. Donc, bien sûr, le Danemark y est pour quelque chose, mais je pense qu'ils étaient clairement pas à leur niveau habituel. Ça m'a étonné de voir l'absence de réaction parce que clairement le Pays de Galles n'y était pas. Mais j'ai adoré l'image que je reviens à ce que je disais. L'image que je retiendrai, c'était lors du premier but danois. Le premier à exulter, on a vu ça en audiovision, c'était Poulsen. Et c'était le premier supporter des Danois sur le banc, alors que on sait très bien que l'ego des joueurs, il est là pour marquer des buts, donc quelque part, c'est un petit peu, lui, maintenant, quand je peux revenir, maintenant ça va être compliqué, le coach va devoir faire des choix, donc c'est pas toujours évident à gérer, et il était comme si c'est lui qui avait marqué, quoi. Et donc, je pense que dans un tournoi, si tu joues en équipe, à de rares exceptions près, quand il y a trop des égos de surdéveloppés, tu joues. Je pense à Ronaldo, la finale il y a 5 ans, ben, il était là, c'était le 12e homme sur le terrain. Voilà, et pourtant, Ronaldo, Dieu sait que c'est un nombril sur pattes. C'est ce qu'on lui reproche en général.
Mais entouré d'abdos. Un nombril entouré d'abdos.
Aussi, oui. Donc, non, moi j'ai trouvé ce match vraiment très 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 plaisant. Et puis finalement, la logique a été respectée, le sport a été respecté dans le sens où c'est pas le pronostic, mais la meilleure équipe, en tout cas au moment M, a gagné.
Moi, je voulais dire, il y a eu le capital sympathie parce qu'il y a eu des événements qu'on connaît avec Eriksen, mais ils ont continué, ils ont gagné ce capital sympathie aussi sur le terrain, dans la mentalité, dans leur façon de jouer, dans leur solidarité, dans l'atmosphère qu'il y avait autour du stade, dans les supporters, etc.
Ouais.
Ils ont vraiment gagné la sympathie du public européen en général, et pas uniquement par pitié, je trouve.
Exactement. Moi, je pense aussi que ce soit la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande, tous ces pays un peu nordiques, en règle générale, quand ils se présentent dans une phase finale, oui, très très nordique,
surtout l'Islande,
dans ces grands tournois, ils ont toujours un capital sympathie. C'est des équipes qu'on entend rarement se faire siffler. Peut-être parce qu'elles sont moins présentes sur le continent en termes de championnat, dans les Coupes d'Europe, etc. Mais il n'y a pas la même rivalité qu'entre les Italiens, les Espagnols, etc. ou les Portugais ce soir. Les équipes, on les aime, on les déteste. Finalement, les équipes du Nord, on les connaît peu. Et finalement, comme je le disais, je pense que c'est un football rafraîchissant qui ne calcule pas, etc.
Et ils sont fair play. Souvent,
oui, tout à fait.
Je pense qu'il y a de ça aussi.
Il y a un côté vraiment...
Je comprends les raisons.
Un peu comme avec les Écossais. Hein.
Ouais,
on
n'est
jamais totalement compte parce qu'on sait qu'avant tout c'est la fête du foot avec eux, et donc je trouve que ça c'est assez marquant. On se rappellera, c'était quand avec l'Islande, c'était la Coupe du Monde il y a 3 ans,
où
on a découvert ces Islandais où on connaissait pas un joueur, avec leur communion avec leurs supporters, le clapping, le fair play, enfin tout ça, voilà, joue dans à mon avis la sympathie qu'on a à leur égard. Et surtout on les aime bien aussi parce qu'ils ne viennent pas pour chercher les lauriers. Faut évidemment voir quand ils sont plus compétitifs, parce que là...
Mais c'est vraiment des sportifs dans le sens noble du terme. Ils viennent avec leurs armes, ils se dépensent sans réfléchir, sans calculer plutôt. Et voilà, un petit hommage à l'Islande qui est absente dans cet Euro, mais 350 000 habitants et arriver à faire une équipe qui ne fait pas pâle figure, on l'a déjà évoqué dans cette émission, franchement, chapeau bas.
C'est la différence avec les autres pays, c'est que tous les autres pays, les supporters connaissent les joueurs, et en Islande, les joueurs connaissent les supporters.
C'est vrai.
C'est pas faux.
Ils connaissaient les supporters qui étaient dans le stade. Donc le Danemark est qualifié, et le Danemark est venu à bout du Pays de Galles. Le prochain match, ce sera donc contre l'adversaire. Son adversaire, c'est l'équipe qui vient de l'emporter. Donc je vous propose qu'on enchaîne là-dessus tout de suite. C'était Pays-Bas, République Tchèque. Et là, on va pas se raconter d'histoire. On est surpris. Alors, on est surpris parce que sur le papier, ce sont les Pays-Bas d'un côté, même si le collectif, on avait trouvé des choses à redire au premier tour, mais on avait insisté sur la qualité des individualités de Wijnaldum, de Memphis Depay, Dumfries, qui avait fait.
Bah, ils ont fait un beau premier tour.
De Ligt, de Jong.
Tous les anciens Ajaxiens.
Après, tu as raison, Sam, quand tu dis sur le papier, voilà, c'est une surprise. Après, pour avoir vu le match, on l'a tous regardé, c'est pas du tout une surprise. Au vu du match, c'est clairement l'équipe qui méritait. Alors, on reviendra peut-être sur la carte rouge, enfin, les circonstances de match, mais avant la carte rouge qui, clairement, oriente, je dirais, probablement le résultat, les Tchèques avaient fait plus que jeu égal avec leurs adversaires du jour. Et, après, on pourra rentrer dans le débat. On dit toujours les Hollandais arrogants, etc. Aujourd'hui, cette année, je les ai trouvés moins arrogants que d'habitude, mais ils sont arrivés, je pense, sur le terrain en se disant, ça va pas une formalité, mais bon.
On avait eu un petit aperçu de ça lors du premier match, ils avaient mené rapidement, ils semblaient dominer complètement les Ukrainiens. Ils menaient 2-0, ils se sont fait reprendre, ils ont réussi à la fin à l'emporter. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, je sais pas si c'est lié complètement, mais ils ont eu une petite baisse de régime, sans doute liée au fait qu'ils menaient bien tranquillement et qu'ils se sont laissés.
En 5 minutes, ils avaient pris 2 buts.
Oui, mais ils avaient eu la faculté de réagir.
C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'un joueur de moins, c'était compliqué. Mais c'est une surprise. Alors, on évoquait tout à l'heure les bons souvenirs du Danemark 92. Ben, moi, cette équipe de République tchèque, elle me rappelle furieusement l'équipe de République tchèque 96, qui avait terminé en finale, avait fait un super tournoi avec des joueurs qui étaient alors encore inconnus. C'était les Poborski, Smitser, Patrick Berger. Ils avaient fini en finale, ils avaient éliminé les Français en demi-finale, qui étaient Français qui...
D'où tu t'en souviens?
Parce qu'on avait sorti les Pays-Bas juste avant. C'était deux séances de tir au but, la deuxième a été moins heureuse que la première. Mais c'est vrai que, bon, eh ben, ils vont jouer les Danois, donc ça va être un choc. Là, vraiment inattendu, je suis prêt.
Je vais faire un constat un peu facile vu les résultats. Mais j'ai toujours, depuis le premier match, tempéré un peu l'enthousiasme quant aux Hollandais. Alors évidemment, c'est d'autant plus facile de le dire maintenant, hein, je n'en tire aucune.
Oui, c'est facile de le dire maintenant.
Mais j'ai trouvé que leur absence d'équilibre, leur défense en carton, me rassurait pas. Et je trouvais que leurs individualités, oui... Leurs individualités, c'est pas mal, mais c'est de nouveau pas des Ronaldo, c'est pas des Kevin De Bruyne. Mmh. Voilà, ce sont des très bons joueurs, voilà. Mais ce sont pas des extraterrestres.
Ça fait plaisir à Sam, c'est pas des Paul Pogba.
Oui, c'est vrai. Non. C'est vrai, c'est pas des Mbappé. Je me demandais si ça n'allait pas être un tout petit peu court. J'avais même dit, je pense, lors de leur premier match, j'ai l'impression que cette équipe qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, qui était en phase de reconstruction, n'est pas encore mûre. C'était ce que j'ai employé. Je m'attendais tout de même pas à ce qu'ils soient éliminés si tôt face à une équipe dont je pensais qu'elle pouvait dominer. Mais finalement, en voyant cette belle petite équipe tchèque, et je pense qu'ils sont quand même passés à côté un peu de leur match, même si en première mi-temps, ils ont eu une série d'occasions, mais les Tchèques aussi. Les Tchèques aussi ont eu une série d'occasions. Je suis à moitié surpris, en tout cas, que ce ne soit pas, on les retienne pas encore dans le cadre d'une grande compétition, vu le stade de développement de la nouvelle génération auquel ils sont actuellement.
Moi, par contre, alors je te rejoins totalement, je cautionne ce que tu dis, tu avais dit effectivement que c'était peut-être un peu léger. En revanche, on a eu l'illustration parfaite aujourd'hui, cet après-midi, de ce que le foot peut apporter comme ascenseur émotionnel. Parce que voilà ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas vu le match. Les Hollandais ont une occasion de but juste invraisemblable, mais splendide, hein, une très belle phase, grand pont, on se présente seul devant le gardien, on n'a plus qu'à l'éliminer et on fait le crochet pour. Le gardien plonge dans les pieds, sort la balle et anéantit cette phase qui normalement dans 99 fois sur 100 termine au fond du filet. Sur la phase suivante, et c'est là que tout bascule, les Tchèques se procurent une occasion, demi-occasion à l'entrée du rectangle, mais un petit peu excentrée, et De Ligt, dernier homme, à un moment trébuche, tape la balle de la main. Et après intervention du VAR, etc., l'arbitre avait d'abord donné une carte jaune, on l'a évoqué. Finalement, il revient à sa décision, il lui donne une carte rouge. Et là, on va dire, oui, mais avec la carte rouge. Donc, le foot, c'est ça. 1-0 pour les Hollandais, c'est un autre match. Et peut-être qu'on serait en train de dire, les Hollandais, comme prévu, l'ont emporté, etc. Et donc, c'est ça qui est beau. Et je rejoindrai Alex Vizorek, qu'on voit souvent chez nos confrères de la RTBF, qui dit toujours, les pronostics, c'est une science exacte quand le match est fini. Et donc, c'est vraiment ça, parce qu'on peut parler pendant des heures, avant, après, mais la réalité du foot, il faut tout remettre dans le contexte. Les deux auraient pu l'emporter, mais la meilleure équipe est celle qui a le plus voulu la victoire, parce que les Tchèques n'étaient pas en reste. Quand ils étaient à 11 contre 11, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve qu'ils méritent largement leur qualification.
Et c'est formidable pour eux. c'est formidable pour l'Euro et pour
toutes les équipes qui font partie de ce tableau-là. Il va falloir tous se les farcir. Hein,
et ça veut dire qu'il faut aussi nous, de notre côté, qu'on arrête de penser que petit nom égale petit pays. Et donc, c'est vrai que sur le papier, on se dit que celui qui va remporter le match, on se dit ça, hein, Allemagne-Angleterre, il a le champ est libre pour lui, puisqu'il aurait un Suède-Ukraine en quart de finale.
Jusqu'en finale.
Voilà, mais il faudra déjà qu'il arrive en finale.
Pour les gens qui sont de notre côté du tableau, c'est une bonne nouvelle que les grands se fassent sortir comme ça, celui qui arrivera en finale.
Sam a raison. Il faudra se taper ces noms moins ronflants, mais qui, quand voilà, quand on les voit sur papier, on se dit oh super. Quand on les regarde jouer, on se dit il faut se les farcir.
Remember la Croatie, il y a
90 minutes. Voilà, ça reste un match de 11 contre 11 qui dure 90 minutes.
Et c'est pas toujours
les Allemands.
Et pas avec des oiseaux pour le chat.
Non.
Ni la République tchèque, ni le Danemark, ils sont des oiseaux pour le chat, on les a vus. Hein.
En même temps, tout le monde voit les diables. Enfin, chaque supporter voit son équipe aller très très loin, etc. Il faut pas perdre de vue, ce que je vais dire, c'est la palissade, on est bien d'accord, mais il y a 24 équipes, il y aura 23 déçus. C'est une évidence, donc,
Je pensais que t'allais dire, il faut prendre match par match.
non.
Mais c'est un peu ça.
Il faut monter
et que l'important, c'est les 3 points, alors que c'est plus du tout le cas maintenant, voilà. Puisqu'on joue une autre compétition.
Donc, si on se fait sortir aujourd'hui, pour moi, l'important, alors, bien sûr que j'aimerais bien qu'on aille jusqu'en finale et qu'on remporte cet euro, parce que cette génération, comme on le dit et on le répète, et tous médias confondus.
Ah, on est passé sur la Belgique, là, pardon, excusez-moi.
Mais ouais, non, clairement. Mais, l'important, c'est...
Oui, on parle foot, maintenant.
À la limite, si tu sais montrer ce que tu es capable de faire au foot, tu te fais sortir en huitième, comme aujourd'hui, par exemple, et tu as montré du beau foot et tu as bien joué, et puis les circonstances de match font que... Eh ben voilà, en espérant que non, et en espérant qu'on aille en finale, mais je pense qu'à partir de maintenant, c'est pas une loterie, mais c'est... voilà.
Non, après, c'est...
Il y a une part de ça.
Il y a une part de réussite et de chance.
Il y a une part de contrôle, et il y a une part, comme tu dis, de choses incontrôlées.
Incontrôlables. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est... Vous pouvez jouer certains matchs 100 fois, et puis la fois qui compte, c'est celle que vous allez perdre. Vous aurez gagné.
On peut dominer un match tout le match, et puis perdre sur un corner, et un bête corner, et puis l'équipe joue.
Et puis un mec qui a jamais
plein de fautes.
Un mec qui a jamais marqué.
Je prends un exemple, une stratégie au hasard.
Un mec qui a jamais marqué.
Pas quelque chose qui m'a marqué de particulier. Non, vraiment.
Mais Sam, il connaît ça bien, hein, parce que Kostadinov.
J'en ai entendu parler.
Kostadinov, ça fait 26 ans qu'il s'entraîne tous les jours, il n'a plus jamais réussi à le mettre.
Il la remettra comme ça.
Voilà à quoi ça tient. Donc voilà, c'est comme ça.
C'est vrai. Avant de revenir sur la Belgique, puisque c'était de ça dont on parlait, revenons d'abord au match d'hier.
On
va y être. Le match le plus long de l'Euro pour l'instant, puisqu'il y a eu une prolongation. Ouais. L'Italie-Autriche. L'Italie sortait d'un premier tour où tout le monde était. Les commentaires étaient assez dithyrambiques. On s'est tous dit, nous. Moi, j'ai parlé avec d'autres gens qui sont pas des fans absolus de l'Italie. Pas pour des raisons de rivalité, pas uniquement pour des raisons de rivalité historique, mais juste parce que le jeu de l'Italie est souvent assez ennuyeux. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti depuis longtemps. Sur le premier tour, ils avaient été en ballant, je les avais trouvés vraiment formidables. Hier, ils sont tombés sur un os autrichien. Est-ce que vous pensez que d'une part, l'Autriche a été suffisamment bonne pour mettre ces Italiens quand même pas au supplice, mais enfin pour vraiment les gêner? Ou est-ce que vous pensez que les Italiens se sont un peu tout seuls, mis dedans? Est-ce qu'ils ont eu ils ont joué petit bras?
Moi, je pense qu'il faut pas minimiser l'impact de l'Autriche. Mm-hmm. L'Autriche a vraiment été excellente, et l'Italie a peut-être été moins flamboyante que ce qu'on avait vu. Ils avaient aussi deux trois joueurs en moins. Et les réservistes d'ailleurs ont fait la différence dans les prolongations. Je vais un peu trop loin, mais je pense oui, c'était un peu des deux, mais je mettrais principalement l'Autriche a été joueuse, est allée chercher l'Italie. La stratégie était bien pensée, est allée chercher l'Italie dans ses qualités. Ils avaient bien analysé les trois premiers matchs et ils leur ont empêché de développer le football qui avait été développé et qu'on avait mis en avant comme étant contre nature, mais plutôt excitant à regarder.
Tout à fait, ouais. L'Italie, du coup, est-ce que vous pensez que c'est le premier tour qui était un trompe-l'œil et que finalement leur vraie valeur c'est de se faire accrocher par l'Autriche, ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que ce match difficile au cours duquel ils ont dû puiser dans leurs ressources va les sublimer encore pour la suite de la compétition et pour le quart de finale?
Ils n'ont pas perdu les qualités qu'on a vues au premier tour, ils n'ont pas perdu, ils n'ont peut-être pas pu les exploiter contre l'Autriche, mais ils n'ont pas perdu, et puis ils sont toujours qualifiés. Parce qu'apparemment, les Hollandais ne sont pas qualifiés. Mais, donc, ils sont toujours vivants. Je les enterrerai pas, moi.
Non, les enterrer, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, je pense que le match d'hier avait un seul intérêt. C'est pour les adversaires potentiels, c'est-à-dire les équipes qui restent, qui se disent qu'ils vont peut-être devoir rencontrer l'Italie. Je pense que l'Autriche a offert une belle alternative. D'une part, alors, il faut avoir les ressources physiques. Hein, parce que franchement, les mecs, hier, ils sont allés au charbon. Pardon. Ils sont allés au charbon pendant... Je pense que le premier changement est intervenu pour les Autrichiens après dans la prolongation, de la première prolongation. Donc voilà, ils étaient en plus.
Je comprends hein, pourquoi il a pas fait de changement avant.
Non, mais ça tenait, ça,
ça
tenait.
Ça tenait bien la baraque.
Absolument. Mais je me dis que si une équipe qui a regardé le match d'hier a les ressources physiques pour faire ça, pour faire échec à l'Italie, c'est une bonne méthode parce que les Italiens n'ont pas du tout pu s'exprimer. Après, il y avait la frustration, l'énervement, mais on a vu effectivement des déchets techniques des deux côtés. On pouvait les attendre du côté autrichien, mais du côté italien, c'était surprenant. Des passes à 5 mètres qui n'arrivaient pas. Des passes le long de la ligne qui sortaient en rentrée en touche. Enfin, bref, des choses qu'on n'avait pas vues les trois premiers matchs. Donc, clairement, je pense que l'Italie n'était pas dans un grand jour. C'était pas un off day non plus. C'était pas un grand jour. Les Autrichiens n'étaient pas non plus à 120%. Parce que je pense que dès qu'ils ont dû pousser, ils l'ont fait. Et il y avait peut-être qu'ils ont peut-être manqué un petit peu d'audace. En même temps, ils se disent que s'ils avaient poussé vers l'avant, ils s'en prennent un ou deux. Après, c'est mort. Et l'entraîneur autrichien avait dit qu'il avait, enfin bon, tous les entraîneurs disent en conférence de presse qu'il avait mis en place une stratégie, mais qui a failli payer.
Et oui, puisqu'on le rappelle, ils ont réussi à tenir le match nul 0-0 donc jusqu'à à la fin du temps réglementaire.
Et que ils ont même marqué. Ils ont
même. Oui, c'est la première équipe qui marque en Italie depuis.
Oui.
Enfin, ils ont deux buts. Il y a un goal annulé.
Un goal annulé, ouais, ouais.
Parce qu'on parlait de fait de match, ça peut se jouer à pas grand chose.
Hein. Oui, et s'il le marque, c'est 0-1 pour l'Autriche.
Oui, hein. Oui,
c'était 0-0 à ce moment-là.
Hein. Et l'Italie s'est sublimée aussi dans la prolongation grâce à Chiesa, notamment, absolument, qui fait un beau travail depuis le début de l'Euro, qui est rarement titulaire, mais qui entre et qui fait la différence.
Bah, c'est les deux hommes comme du banc qui ont fait hier la différence, clairement.
Comme son père, il y a quelques années.
En 96, c'est ça. Hein. Ouais. C'est la première fois de l'histoire de l'Euro qu'un père et un fils marquent dans cette compétition.
C'est avec Johnson qui avait joué père et fils.
Ouais, mais le père, il a pas dû jouer la phase.
Il a pas joué la phase. Ah non, t'as raison. Hein. Il a joué les qualifications.
Mais aujourd'hui, dans le Tour de France, il y a un petit-fils et un grand-père qui ont remporté une étape du Tour.
Ouais.
C'est le petit-fils de Raymond Poulidor qui a gagné une étape aujourd'hui, la deuxième étape du Tour. Enfin bref, ça c'est une parenthèse.
Et peut-être que Van der Poel fera mieux que son grand-père puisque.
Il a le maillot jaune en plus.
Ouais. Parce que Raymond Poulidor qui a fait une carrière extraordinaire quand même et dont on se souvient malheureusement
de
pour
la
lui.
Deuxième place.
Que, voilà. Mais pourtant, il a fait d'énormes victoires. Mais ça, c'est autre chose.
Donc, je voulais dire aussi qu'on ne s'y trompe pas. On parle d'Italie-Autriche. Les prolongations, c'était merveilleux. Donc, la première heure et demie. Si vous voulez vous taper un match de foot, regardez après le début des prolongations. Avant ça, il n'y a rien.
Ouais, mais les prolongations, ça valait le déplacement. Hein. Ouais. Ça allait vraiment d'un côté à l'autre. C'était super. Et le goal de l'Autriche, moi, je trouve absolument dingue. On pourrait croire qu'ils baissaient les bras. On est à la 114e minute. Physiquement, ils sont un peu morts. Ils forcent.
Un peu beaucoup, même.
Ils forcent un corner qui va au premier poteau. Et là, premier poteau qui était pourtant couvert. Il y a ce joueur qui mesure près de 2 mètres qui se plonge quasiment sur le sol pour l'avoir de la tête et le marquer. Je trouvais que c'était un... Bon, ils avaient un peu oublié le marquage, mais je trouvais que c'était un...
Et le marquage et le premier poteau. Normalement, le gars doit tenir son poteau.
Enfin, il le suivait, mais il s'est détendu un peu comme une otarie, comme ça. Sur le sol, c'est assez particulier. C'est assez particulier à voir, mais j'ai bien aimé.
Oui,
pour ça qu'après il a dit fuck you, enfin bon bref.
Didier.
Oui.
J'ai pas traité de tari, tu sais.
Bon, donc les Italiens s'en sortent, et c'est le plus important pour eux. Ils vont pouvoir souffler un petit peu avant d'avoir affronté leur prochain adversaire, qu'ils observeront avec beaucoup d'attention dès ce soir.
Mais même bien soufflé, hein. Parce qu'ils vont pas, ils auront 6 jours de repos. Donc je crois en tout cas que si on le vainqueur du jour peut en disant j'ai un jour de moins et en plus ils ont
non, ouais, là, c'est...
Je voilà 6 jours.
C'est suffisant, ouais, je crois.
Très particulier ce calendrier. Hein.
Ouais.
Parce que ceux qui vont jouer lundi vont jouer avant ceux qui ont joué samedi. Enfin, c'est très particulier.
Bah, c'est un petit peu comme en Champions League. Hein. Tu joues le premier match le mardi, puis après c'est le mercredi. Et donc il y a à chaque fois un jour de décalage parfois. Et voilà, donc c'est pas toujours évident, toujours à gérer. Mais bon, c'est l'UEFA.
C'est comme ça.
Voilà.
Et c'est la même chose. Il y aura pas. Oui, effectivement, ils sont sur un pied d'égalité quand même lorsque ce quart de finale se jouera. Mm-hmm.
Et pour mémoire, suffisamment de temps. Pour mémoire, 3 ans en arrière. Hier, la Croatie, elle a fait les 4 matchs éliminatoires avec des prolongations jusqu'en finale.
Hein. Ouais,
ils
avaient
joué un match de plus que tous les autres de leurs opposants.
Et pour l'introduire, l'introduire peut-être, et ça je l'ai lu, je pense, hier ou avant-hier, je ne me rappelais plus quand le Portugal a gagné il y a 3 ans, à part la demi-finale, tous les matchs étaient également en prolongation au tir au but. Donc ils ont la... c'était pour introduire, ils ont l'expérience et le physique, enfin le physique faut voir parce qu'on est 4 ans plus tard, mais pour pouvoir mener à bien ce genre de bataille sur la longueur, à la fois physique et psychologique.
Alors allons-y, parce qu'avant d'attaquer la bataille sur la longueur, il va falloir se défaire d'un adversaire de taille pour ces Portugais.
Il y a la compo aussi.
Et on va donner la compo, puisque c'est la Belgique, bien sûr, qui est opposée au Portugal. D'Henri, si tu as la compo, on est.
Alors,
on est
grosse
preneur.
Surprise au goal, c'est Courtois.
Ouais.
Merde alors.
Par contre, en défense.
Pas Mignolet. Merde alors.
En défense, Alderweireld.
Sans blague.
Vertonghen, Vermaelen.
Vermaelen.
Donc, une nouvelle combinaison qui n'a pas encore été testée, à ma connaissance.
Bah, probablement en match
oui.
sans public. Mais...
Il fait confiance aux vieux, on va dire.
Oui, ouais. Petite surprise, Vertonghen. Hein.
Ouais.
Parce qu'on l'a dit...
Moi, je pensais Vertonghen ou Vermaelen.
Oui, ouais. Et Vermaelen venait avec un cran d'avance, parce que Vertonghen est quand même, n'a pas fait grande impression. Il sort d'une saison difficile avec Benfica, qui a eu une saison également très difficile ouais. Et puis surtout, on a repéré qu'il avait quand même des grosses faiblesses en termes de rapidité sur le flanc. Et on va préfacer qui y a en face, et donc on s'était dit que peut-être qu'il laisserait Vertonghen, mais non, Vertonghen est le plus capé hein, de tous les diables. Donc
je pense qu'en termes d'expérience, il n'y a pas photo. Ouais. Quoi.
Puis il joue au Portugal.
Mais contre le Danemark, il était à la rue. Hein.
Oui, mais en même temps, à la rue, quand on va dans son dos, c'est le problème des. Même les Italiens, tu vas dans leur dos avec Chiellini ou Bonucci. Il y a un souci. Donc, je veux dire, ça, c'est le privilège de la jeunesse sur l'âge. Après, ils ont, quand tu vois Chiellini ou Bonucci, bon, Chiellini, il n'était pas là hier, bien sûr, mais ces gens-là compensent par un placement juste incroyable et un sens de l'anticipation juste stratosphérique. Donc, voilà, on espère. Vertonghen, c'était quand même la pierre angulaire de Tottenham avec Alderweireld pendant tellement d'années. Et puis aussi les automatismes. Alderweireld et Vertonghen, les yeux fermés, ils se trouvent. Ils ont joué combien de temps? 10 ans 15 ans
Ils ont joué à l'Ajax déjà.
À l'Ajax voilà. Et à Tottenham. Ouais,
ouais. Donc il y a une complicité colossale. Quand il y en a un qui se trouve, ben, ils doivent se sentir. Là-dedans, tu mets Vermaelen qui, au niveau d'un jeu de tête en défense et même en attaque sur un corner, risque de s'avérer. On l'a vu d'ailleurs.
Ça, tu as raison. Tu as tout à fait raison.
Et contre Cristiano Ronaldo, qu'on voit toujours, on a l'impression que l'image se fige, mais c'est lui qui reste en l'air, en fait. Je pense qu'il faut quelqu'un de la tête. Et on a aussi Romelu qui donne un coup de main de la tête derrière. Je pense qu'il fallait prévoir ça.
Normal de ne pas blesser, c'est la classe mondiale quand même. Mm-hmm.
Clairement.
Et Boyata n'est pas dedans, hein, surprise.
Non, alors ça c'est la défense. D'entre-jeu, il y aura...
un peu jeune encore.
Il y aura Meunier, Witzel, Tielemans et Thorgan Hazard.
Mm-hmm. Logique.
Et alors devant...
Ne nous dis pas. Devant. Surprise ou pas surprise?
Aucune surprise.
Voilà.
Aucune surprise.
Eden,
De Bruyne, Lukaku.
Et Lukaku. Eh ben ça va faire une...
C'est l'équipe type, hein, honnêtement.
Avec Carrasco sur le banc, avec... Enfin, on a quand même des armes... On a des belles armes. Hein,
et Doku, pourra... hein. Ouais. Moi, je suis... Ah ouais. Je suis assez séduit par... Arrête de me faire rire avant que je commence. C'est dit par Doku.
Commencez pas. Hein.
Doku, je l'ai déjà dit, hein, mais face à une défense un peu...
Parce qu'on a vu Wijnaldum cet après-midi. Hein.
Face à une défense...
C'est un joueur de Liverpool jusqu'au 1er ouais. juillet.
Quand une défense a dû subir les coups de butoir de Lukaku pendant 60-70 minutes, faire rentrer un petit jeune de l'explosivité de Doku, je crois vraiment en cette tactique.
Ouais. Puis il faudra voir, en même temps, parler de l'âge. Je vois bien, puisque je pense que s'il est, j'ai pas vu la compo portugaise, mais je pense que faire rentrer Doku après avoir bien fatigué Pep pendant 70-80 minutes, il va exploser avec Doku qui viendra sur son côté. Ça, c'est clair.
Et ou Carrasco, hein.
Oui,
parce
mais
que Carrasco peut être tout à fait explosif. Il a été un peu décevant depuis le début de cet Euro comparé au très bon.
C'est ça, papa,
très belle saison.
C'est décevant par rapport à ce qu'on attend.
Alors, côté portugais,
Doku a une fraîcheur et une spontanéité que Carrasco a moins. Et en tout cas, Carrasco, son dernier match, il n'était pas convaincant. Il est passé à côté. Après, ça ne veut pas dire charrette non plus. Hein, on est d'accord.
L'entraîneur portugais a pris ses dispositions, peut-être en. Il a analysé les faiblesses de ses joueurs et il y a quelques Portugais qu'on avait vus au premier tour qui disparaissent. Semedo, arrière droit, qui est remplacé par Dalot. Et au milieu de terrain, surtout.
Dalot qui était remplaçant, je pense, oui, dans le match précédent. Fait. C'est ça contre la France.
J'avoue, je ne connais pas Dalot.
Qui a fait une bonne rentrée, mais surtout au milieu de terrain, Palinha, Renato Sanchez et João Moutinho. Donc exit William Carvalho et Danilo Pereira, qui avait été décevant quand même. Il n'avait pas, pas montré grand-chose.
Bruno Fernandes. Qui m'a marqué. Dans le match
Renato Sanchez sera là.
Il reproduit la même
et
chose.
Il sera sans doute dans là pour contrer la force du milieu de terrain belge pour venir ennuyer Kevin De Bruyne.
Bruno Fernandes aussi saute.
Bruno Fernandes sur le banc, et puisque c'est Bernardo Silva, Diogo Jota et Ronaldo qui sont alignés en attaque, effectivement.
Ronaldo est quand même aligné, finalement.
Ouais, il n'est pas brésilien, Ronaldo?
Le faux, Ronaldo le faux, mais il est là quand même. Effectivement, sur le banc, on a Bruno Fernandes, notamment.
Je dois faire mon mea culpa, parce que Ronaldo, c'est pas mon pote. Je suis pas fan, franchement. Mais je trouve qu'en termes d'esprit d'équipe et de motivation, à 36 ans, quand on a tout gagné, et qu'on ait encore cette motivation-là, comme un gamin de 17-18 ans, moi je dis chapeau à l'artiste, avec toutes les réserves qu'on sait que moi je peux avoir pour lui. Mais,
Et là, il y avait les images de l'échauffement, où il y avait Pépé qui était en train de s'échauffer, il est arrivé derrière avec une petite bouteille d'eau.
Bien froide, à mon avis.
Bien froide, et il lui a fait couler ça dans le cou. Donc je pense qu'il est encore, effectivement, avec des blagues un petit peu potaches.
En même temps, avec Pépé, c'est des blagues d'hospice.
Ils doivent se connaître. Ils se connaissent quand même très bien. Je pense que le Portugal a une défense centrale qui va être compliquée pour Romelu Lukaku. Je ne dis pas que Romelu Lukaku va pas en venir à bout, mais disons que sur les charnières centrales qui lui sont proposées, celle-là, elle allie la force physique de Pepe et Rubén Dias, meilleur défenseur, meilleur joueur de Première Ligue la saison passée, selon les journalistes.
Une défense centrale qui est... Quand tu joues en Serie A et que tu mets 29 buts... Tu as peur d'aucun axe de défense, à mon avis.
Oui, mais bon, c'est pas pour autant qu'il va. Ils sont quand même fait sortir avec lui de la Ligue des Champions, Romelu Lukaku qu'il était. Donc il va pas gagner tous les matchs
non
plus.
Mais c'est pas lui qui joue au goal non plus. C'est pas lui qui joue au goal.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est la plus. Je dis simplement une défense centrale qui va poser sans doute peut-être plus de difficultés que. Je sais pas, les Russes, les fantômes russes.
Mais clairement.
Que Simon Kerr.
Je lisais une revue de presse de compilant la presse portugaise. Ils sont très confiants. Hein. La presse portugaise de ce week-end.
Ça m'arrange bien.
Oui, moi aussi. Attention, ils disent pas que c'est un match facile, mais ils sentent dans cette équipe à la fois l'expérience, la qualité et surtout la compréhension des points faibles belges qui selon eux devraient leur permettre de les neutraliser.
Moi, j'étais surpris. J'ai regardé les cotes chez divers bookmakers et j'étais surpris de voir la Belgique si loin. Quand je dis si loin, c'est à 11 contre 1, là où la France était à 7, l'Italie à 9 ou 8. Donc les différences sont pas énormes forcément, mais qu'il y ait 4 ou 5 équipes qui sont classées devant la Belgique en termes de favoris pour la victoire finale. Et je me suis dit que ça devait être, j'ai pas regardé ça, mais je me suis dit que ça devait être peut-être dû au fait que...
Mauvaise partie de tableau peut-être aussi.
Peut-être, mais surtout ils ont montré des faiblesses contre le Danemark dans cette première mi-temps indigente. Ou dans laquelle, je veux dire, les autres équipes peuvent avoir des motifs d'espoir. C'est-à-dire que les défenses, il y aura pas
tout le monde pointe la même chose.
Il y aura pas Denayer. Non, c'est ça. La défense, on en a même parlé là en disant dans le dos, c'est avec Ronaldo, de ses 36 ans, il accélère quand même encore fort. Bernardo Silva, c'est un petit diable, pas rouge, mais
Ronaldo,
un
je sais pas si diable, vous avez remarqué,
il est passé à côté là
moi,
depuis.
Il est moins bon de Mahomes. Hein.
Oui, il est moins bon qu'avant.
Contre les Français, il n'a pas fait un gros match.
Ça m'a marqué. En fait, il est toujours super bien positionné. Il s'est toujours marqué de toutes les positions. Mais dans les duels, alors qu'il est éliminé facilement, il élimine moins. Peut-être, je ne sais pas, c'est mon impression en tout cas.
C'est vrai. Mais les Portugais ont-ils les armes, à votre avis, pour gêner et comment?
Bien sûr.
Comment? À part
rien que la notre enfin voilà ce débat, mais de nouveau Martinez a jamais changé son système de jouer en trois défenseurs. Bah clairement c'est un énorme risque. On joue avec trois défenseurs qui sont trois personnes relativement âgées, qui sont trois personnes qui ne sont pas super rapides, trois personnes qui les trois joueurs qui ont commis quand même, on a l'impression que leurs meilleures années sont plutôt derrière
sans doute,
et pas devant et pas actuellement. Bah certainement mis par les bookmakers, outre le fait, je voudrais ajouter, qu'on a quand même trois joueurs qui sont les trois extraterrestres blessés. Il y en a deux qui reviennent, mais Hazard, qui était quand même notre capitaine et notre joueur emblématique, n'est plus jusqu'à présent que le fantôme de lui-même. Donc ça joue aussi dans les coups des bookmakers.
Je te trouve très très dur, pour le coup. Ouais. Fantôme de lui-même, il n'est peut-être pas à son niveau, mais fantôme, là, je pense que c'est un peu exagéré.
Enfin, Didier, ça fait deux ans qu'il ne joue quasi plus.
Non, je te parle de ce qu'on l'a vu faire. Il est de retour.
Il a fait 3-4 dribbles.
Alors, le fantôme de Hazard.
De qualité exceptionnelle contre le Danemark. Mais alors, entre se dire que cette personne, et on le sait, n'a pas perdu toutes ses qualités, et de vous dire qu'il peut avoir un apport qui est au moins la moitié de ce qu'il apporte actuellement, je pense qu'on n'y est pas du tout.
Et je pense que lui-même a dit qu'il retrouvera, il pense qu'il ne retrouvera jamais sa cheville d'il y a 10 ans.
Clairement.
Et c'est vrai qu'un joueur comme lui qui a une explosivité, une facilité dans le dribble, une flexibilité des articulations pour désarçonner ses adversaires, vous lui retirez ça, ça lui rend les choses plus compliquées. C'est vrai qu'autant De Bruyne, alors c'était pas du tout le même type de blessure, De Bruyne, ça a été, je pense que ça a dû lui faire mal en plus intérieurement de se faire blesser comme ça et de pas pouvoir gagner la Ligue des Champions. La blessure qu'il a subie, elle nécessitait que son visage soit protégé, qu'il puisse pas avoir ça de nouveau, mais on n'était pas inquiet sur ce qu'il faisait. Bon, Eden Hazard, c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est plus tellement ça et que à chaque fois qu'il revient pour revenir. On peut pas dire que on soit rassuré. Oui, moi je pensais honnêtement que Eden Hazard donnerait plus que Witzel sur le terrain. Je veux dire, je suis beaucoup plus épaté et surpris du retour d'Axel Witzel que de celui d'Eden Hazard.
Oui, mais c'est pas du tout le. Enfin,
il est encore capable
c'est
de
du tout le même ça. Registre.
Mais peu importe.
Faut pas comparer des pommes et des poires.
Mais peu importe.
Non, pas peu importe.
Je pense qu'il est capable de fulgurance quand même.
Moi, je pense pour le match que j'ai vu contre la Finlande. Et ça peut suffire. Excuse-moi un instant, quand je les ai vus jouer contre la Finlande, et on a retrouvé un Eden qui avait moins peur des contacts qu'il avait. On l'a vu contre le Danemark, il était encore un peu emprunté, c'est vrai, contre les Russes certainement. On l'a vu de nouveau reprendre des sensations. Après, clairement, il n'est pas à 100% et personne ne prétend qu'il le soit. Mais je pense qu'un Eden, même sur une fulgurance ou deux, en plus pour ses partenaires qui soient sur le terrain, c'est quelque chose d'important. Et je reviendrai aussi sur ce que tu disais, Sam, et tu as parfaitement raison de dire que l'axe défensif du Portugal est extrêmement solide. En revanche, en termes de résultats, ils en prennent 2 ou 3 contre vous, ils en prennent 4 contre les Allemands, même s'ils en ont marqué autant. Hein. Mais voilà, c'est pas une défense imperméable. Les Italiens ont pris 0 goal, enfin ils en ont pris 1 hier sur 4 matchs. Alors qu'ils ont une défense dite moins rugueuse ou moins plus perméable que les Portugais qui eux en ont pris blindés. Donc j'ai envie de dire si nous on arrête de nous focaliser parce que c'est un peu la Belgitude ça, hein, d'aller pointer nos points faibles. Désolé, ça, on est en Belgique.
Pas de problème.
Je dis ça pour rire, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, le Belge, on s'excuse d'être bon en quelque sorte. Je rejoins un peu Fred Ouassège en général. Moi, je m'en fous qu'on prenne 4 goals du moment qu'on en met 5 et on a les armes pour le faire. Et pourquoi pas?
Je crois que la bonne nouvelle pour Eden Hazard, c'est que t'as Thorgan et Muni qui sont tous les deux fit. Donc, ils vont faire un travail défensif derrière les deux latéraux, on va dire. Donc, je pense que ça joue beaucoup aussi.
Peut-être.
Si Thorgan n'était pas là, c'était.
Mais moi je vous rejoins tous les deux sur la capacité de fulgurance. Oui, je persiste à penser qu'il est fantomatique par rapport à l'extraterrestre qu'on peut connaître, mais je suis convaincu et on l'a vu principalement contre quand il est monté, c'était contre le Danemark.
Oui.
On a vu précisément qu'il était encore capable de faire des excellentes choses.
Bah, alors, il élimine un ou deux hommes et ça fait la différence.
Je crains qu'il ne soit plus, enfin qu'il ne soit pas à ce stade le détonateur complet d'un match, encore que. Ça pourrait. Il est capable de certaines choses. La question se posait, est-ce que maintenant on va le mettre comme titulaire ou le mettre comme remplaçant? Ça, on penchait tous comme titulaire. On a eu raison pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une question d'hiérarchie, c'est le capitaine, c'est l'emblème, et donc c'est important de pouvoir le mettre sur le terrain parce qu'il est,
pour ses partenaires,
il n'est pas à 100% en forme, mais il est fit, il n'est pas blessé.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a une raison de le mettre dans la hiérarchie.
Et il a démontré, alors qu'il avait lui-même dit qu'il ne se sentait pas de jouer plus qu'une heure,
Et puis je pense aussi qu'il est mieux.
On avait parlé avec De Stegen, c'est de la com, ça.
Il est mieux de l'avoir sur le terrain maintenant. Plutôt que de le faire rentrer, parce que je ne crois pas que ce soit finalement ce type de profil qu'on aura besoin pour faire rentrer si le match traîne en longueur. Et je pense alors qu'un deux coups, un Carrasco, aurait plus d'intérêt. Donc pour ces deux
même
raisons-là.
Un Trossard.
Moi, j'ai une troisième raison, c'est que il a quand même un impact sur les défenses adverses quand tu as Eden Hazard devant toi. Tu dis, bon, est-ce qu'il est en forme ou est-ce qu'il n'est pas en forme? Tu te poses pas la question, quoi.
Ah, disons qu'avant, on ne se posait pas la question.
Non, non, mais...
Maintenant, on se
mais
pose...
pendant le match,
défenseur, il peut légitimement se demander est-ce que c'est un jour avec ou sans.
Oui, il ne peut pas se dire le mec n'est pas en forme parce que s'il se fait passer, il dit ah merde, finalement, M. Gouré, il était en forme. Quoi.
Disons qu'il y a 5 ans, il ne se posait même pas la question. Le temps qu'il se pose la question, voilà. Il était déjà dans son dos, il avait marqué un but. Maintenant, il est quand même. J'ai l'impression de vous vexer, mais c'est ni l'objectif.
Pas du tout, enfin,
non.
Pas, mais on te garde quand même.
D'autant plus que ta question était précise. Quelles sont nos faiblesses?
On peut pas. Parce que on peut être dans l'incantation et dire on veut qu'Eden Hazard il marque un triplé, que ce soit lui qui soit. On est d'accord. Mais dans l'analyse des choses, on peut aussi se demander s'il a sans doute lui aussi les plus belles années de sa carrière derrière lui. Son physique, il est sûrement. Il sera sans doute, je lui souhaite, mais même lui a l'air d'être sceptique quant au fait qu'il puisse revenir à son meilleur niveau avec 2 ans de blessures et d'ennuis. Aujourd'hui, alors qu'on a joué 3 matchs dans cet Euro et que ce 8e de finale se présente, il n'est pas illégitime de penser qu'il n'est c'est pas le Eden Hazard d'il y a 3 ans. Quand
là, je suis d'accord, mais c'est le terme fantomatique qui m'a un petit peu
frustré.
En revanche, moi, je n'attends pas d'Eden Hazard qui marque un triplé. J'attends d'Eden Hazard qui oriente le match en notre faveur.
Qui fasse un triplé de passe d'assist,
voilà,
on est d'accord.
Avec De Bruyne, qu'il éclaire la rencontre et que les deux hommes qui seront sur lui, parce que si tu lui laisses du terrain, il va aller te marquer les 3 buts, eh bien, que ça fasse de l'espace pour quelqu'un d'autre. C'est ça que j'attends de lui, tu vois. Maintenant, je pense qu'il est capable de ça. Là où je te rejoins totalement, c'est que effectivement la bonne surprise pour les Belges, et c'était d'autant plus une belle surprise que c'était totalement inattendu, parce que personne ne le voyait là, c'est Axel Witsel qui pour moi est le seul, mais je dis ça depuis des années, c'est vraiment le seul joueur que tu ne inamovible de cette équipe. Je veux dire, après on a bien vu qu'on pouvait faire sans, mais si tu construis l'équipe belge et que tu as un gars comme Axel Witsel, tu peux pas te passer d'un gars comme ça. Il n'a aucun alter ego. Il y a des gens qui vont faire du Axel Que ou du Witsel Que, mais personne sait faire de l'Axel Witsel. Comme peu de gens peuvent faire du Eden Hazard, mais Axel, il récupère un nombre de balles juste incroyable.
Moi je l'ai déjà dit, je vais pas être trop loin parce qu'on a déjà parlé des présidents d'émission. Il est dans le système de jeu qui a fait basculer la Belgique d'un stade plutôt défensif, plutôt contre-attaque à un style dominateur, possession du ballon. Et très tourné vers l'offensive, il est la personne clé qui permet à la récupération et en perte de balle de pouvoir tenir la baraque.
C'est en ça que je voulais dire que j'étais plus surpris par son retour, parce qu'il me semble qu'avec le type de blessure qu'il a eu, le type de poste qu'il occupe et le type d'intervention qu'il est amené à faire,
incroyable.
Je pensais que ce serait beaucoup moins probable qu'il revienne à un niveau tel que le niveau qui est le sien aujourd'hui.
Que
Eden Hazard, il a eu des blessures, il s'est pas fait le tendon d'Achille, lui c'est improbable complètement, Witsel, d'avoir réussi à se reconstruire une cheville comme ça, un tendon.
Oui, c'est bizarre,
pour revenir.
C'est vraiment différent, lui c'est étonnant parce que il allait revenir.
Voilà.
Il allait revenir, la question c'est la rapidité avec laquelle c'est revenu.
Après,
mais son jeu n'implique pas, comme Eden Hazard, de pouvoir avoir des moments de fulgurance stratosphérique. Elle requiert beaucoup plus d'intelligence et donc
il y a une prise de risque inférieure chez Axel Witsel dans le jeu d'Axel Witsel physique, je parle. Et en fait, j'ai lu un article sur Eden Hazard avec un joueur qui a joué avec lui, j'ai oublié le nom, donc faut m'en excuser. Et ils expliquaient que par exemple la blessure de Axel, il s'est blessé tout seul. D'accord? Les blessures d'Eden, c'est très différent. C'est toujours traumatique parce que c'est des coups qui ramassent à répétition.
C'est Fabregas, je pense.
Et j'ai lu, oui, c'est Fabregas, tout à fait, qui disait que en Espagne, il faut le savoir, moi j'ai jamais percuté là-dessus, mais que les équipes se mettent d'accord, que ce soit Ronaldo, Messi, pareil, hein, il n'y a pas, je dirais, un statut Eden Hazard, mais les joueurs se relayent pour aller taper, quoi. Pour aller taper. C'est pour ça que très souvent, les artistes en Espagne se font plus protéger par les arbitres parce que les défenses font ça. En Belgique ou dans les autres pays, on est trop naïf. Il y a un défenseur qui est sur l'homme. Là-bas, ils se changent et ils font une tournante et vas-y.
Ils font ça parce que Gökçen ne joue plus.
Ouais, non, mais c'est.
Parce que dans le temps, ils envoyaient Gökçen sur Maradona.
La situation d'Eden Hazard est évidemment où ça a été détruit, c'était avant son arrivée en Espagne.
Espagne, il a pris des coups comme jamais.
Mais son jeu.
Chelsea, c'était moins parce que le football anglais est plus engagé, mais moins traumatique.
Oui, mais son jeu, c'est
pas des sales fautes.
Ça implique le duel, ça implique le dribble, ça implique la provocation.
La prise de risque.
La provocation des défenseurs adversaires. Donc, il a subi un nombre de fautes et on se faisait toujours la réflexion qu'il n'avait pas de blessure.
Oui,
mais là, quand il a été blessé, c'était pas pour rigoler.
Arrière Compagnie, qui avait quand même un gabarit tout à fait autre, pareil, hein. Il a aussi été blessure sur blessure sur blessure, chaque fois revenir, mais revenir 4 minutes, 7 minutes, 12 minutes, un match et demi, et puis boum, est reparti pour 3-4 mois. Et c'est Vincent Kompany. Je veux dire, en termes d'athlète, en termes de gabarit, c'est pas Eden Hazard, quoi. Hein. Donc voilà, c'est...
Bon, là, on a perdu 20 minutes à parler de tout ce qui va. On sait tous que la clé... ça va être Kevin De Bruyne.
Et Romelu.
Va... Oui,
et
non, mais la clé, elle va être dans les pieds de Kevin De Bruyne jusqu'à ce qu'elle arrive sur la tête ou sur le pied de Romelu Lukaku.
J'espère.
Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous pensez que, parce qu'à part lui, je vois pas, est-ce que vous pensez que Renato Sanchez peut faire un travail fort comme il a fait sur Pogba et Kanté lors du match pour pouvoir mettre sous l'été noir, je sais pas, mais en tout cas, limiter l'impact de Kevin De Bruyne, parce que c'est vrai que c'est
depuis le début de l'émission, on parlait des faits de match qui peuvent influencer un match. Donc c'est des choses qu'on peut pas maîtriser.
On peut pas, tout à fait. Non,
sans vouloir faire injure à Paul Pogba et à Kanté, je veux dire, ils n'ont pas, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ils n'ont pas le même, enfin, ils ne sont pas dans le même registre que Kevin. Je veux dire, en tout cas, certainement pas Pogba, pour moi, qui a tout autre une mentalité.
Je veux non, dire, non, 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 mais après, sur le terrain, je veux dire, Renato Sanchez a fait un travail défensif sur eux deux. Je pense qu'il doit, s'il a, après, il va peut-être se faire manger par Kevin De Bruyne.
Il y a beaucoup de gens à tenir. C'est ça, évidemment, la difficulté.
Kevin, c'est pas tellement De Bruyne, pardon. Moi, je dis toujours Kevin, c'est affectueux, mais c'est pas tellement le fait de passer son homme qui est important pour lui. Il faut l'espace, mais comme disent tout le monde qui le côtoie, ce gars, il voit plus vite que tout le monde, y compris les joueurs en face et surtout les joueurs en face. Et donc, la balle, elle n'est pas encore dans ses pieds, qu'il sait déjà où il va la mettre.
Ouais.
Et donc, il gagne déjà ce.
Tous ces entraîneurs ont dit, c'est le joueur le plus intelligent avec lequel
il joue. Je veux dire, pour
encore récemment,
Guardiola, Martinez viennent encore de le répéter depuis un mois. Mm-hmm. Il a une vision du jeu.
C'est inné.
Il a un QI football qui est largement au-dessus des autres. Voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Renato Sanchez a fait un super travail sur eux. Ce qui fait que Pogba a eu, à ce moment-là, il a été obligé de reculer. Et il a réussi à donner une bonne passe de but quand même à Benzema. Mais il a, j'aime pas le mot impactant, mais enfin Renato Sanchez a eu un impact suffisamment important pour amener les Français à devoir modifier un peu la manière dont ils jouaient. Il a reculé de 10-15 mètres Pogba pour pouvoir être tranquille, sinon il l'avait sur le paletot pendant tout le match. C'est ce que je demande. Est-ce que
il risque
de faire le même type de travail sur Kevin De Bruyne?
Ce matin, je me suis revu le résumé d'Allemagne-Portugal. Et c'est vrai que l'Allemagne avait énormément attaqué par les flancs, fait des longs ballons vers les flancs. Et je trouvais que les flancs portugais étaient très souvent lents et assez dépassés. Là, ils ne jouent pas totalement la même équipe.
Non, mais, c'est ça, il a modifié.
Si je l'ai vu, ça n'a certainement pas échappé à Martinez. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. C'est de tabler sur peut-être passer par des ballons un peu plus en profondeur, passer les ailiers et aller un peu plus par les flancs.
Mais s'ils ont changé, le Portugal, peut-être parce qu'ils ont vu aussi contre le Danemark, Lukaku est parti sur l'aile avant d'influencer vraiment.
Ça sont les fins de match. Et puis là, de ce que j'ai pu voir moi, après je connais pas bien toutes les équipes, mais les Belges, c'est l'équipe qui alterne le plus. Les deux flancs alternent et s'échangent. J'ai vu peu d'équipes faire comme ça autant, sans déséquilibrer l'équipe pour autant. Il y a des équipes, quand ils font ça, tu as Eden sur la droite, puis ils changent. Ça ne déséquilibre pas plus l'équipe que ça. Dans d'autres équipes que j'ai pu voir, les Russes ont fait ça, je pense, c'était plus la même équipe. Donc, et je crois qu'aussi, et là je te rejoins Sam, dès qu'une équipe a trouvé la clé pour museler, ne fût-ce qu'un tant soit peu De Bruyne, dès qu'il ne sait plus alimenter l'avance, la Belgique patauge un petit peu. Après, le coach est là pour trouver des solutions.
Oui, si De Bruyne est quand même fort occupé, on a vu, si un Tillmans est un grand jour, il a la possibilité de délivrer. Hein.
Et puis même...
De délivrer ou de scorer lui-même.
Hein. Et si un joueur fait un travail sur Kevin De Bruyne, il a intérêt à le faire pendant 95 minutes.
Parce que
s'il lui laisse une minute où il va lui laisser un petit peu plus de place, ça peut être
Ronaldo,
la sanction tout de suite.
Dans l'autre sens.
Ronaldo,
il a 36 ans.
Ronaldo, c'est le meilleur buteur de l'Euro pour
l'instant. Kevin, c'est dur de faire
un pronostic.
Bien sûr.
C'est vrai que quand j'entends Didier, là, ça me remet un peu de baume au cœur parce qu'on sent qu'il y croit, j'y crois aussi, mais j'ai l'impression que ces équipes sont quasi de force équivalente.
Oui, ça va se jouer sans doute sur quelques détails.
Ils sont là, ils sont prêts à monter sur le terrain.
Ça fait longtemps que les Belges n'avaient pas les 26 joueurs à disposition. Ils composent, à part Chadli
et Castagne.
Je vais peut-être faire un peu de psychologie de comptoir, mais je pense qu'un gars comme Kevin De Bruyne, le fait qu'il n'ait pas gagné la Champions League avec Manchester City, ça lui donne un adjuvant de rage peut-être pour avoir ce trophée.
C'est vrai.
Parce qu'il doit avoir un sentiment d'injustice d'avoir dû quitter le terrain, etc. Je pense que s'il lui manquait 0,1% de motivation, eh bien, il va aller le chercher là.
Sam, toi qui, en tant que supporter français, a été particulièrement attentif du match contre le Portugal, comment tu sens la force.
Je pense qu'ils ont trop de faiblesses. Ils ont des joueurs super, mais je pense qu'ils ont trop de faiblesses. Et la Belgique, selon moi,
a
plus de qualité. Et il est pas, parce que bon.
À demain, Sam.
Ruben Dias et Pepe. Ruben Dias et Pepe. Bon, ouais. Je voulais un peu qu'on débatte, mais je pense que Romelu Lukaku va les mettre dans sa poche. Donc
j'espère.
Non. Et alors.
Mais Ronaldo, par contre, il y a un joueur qui s'appelle Ronaldo et on en reparlera dans 200 ans sans doute quand on parlera football. Et il peut aussi marquer, il peut aussi mettre toute l'équipe belge et toutes les autres du tournoi à ses pieds.
Peut-être que le résultat du match fera que tout ce qu'on a dit, c'est de la littérature.
C'est ça. Bah, on sera bien amusé. On sera bien amusé, on est là pour ça.
Et alors, je viens de voir passer un joueur, on n'a même pas cité son nom, c'est Dries Mertens, disparu. Hein.
Fortement sur ce qu'il a montré, il peut pas être sur le titre.
Dries, si tu nous écoutes,
mais c'est vrai qu'on n'a même pas envisagé dans la première partie, alors que
c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait Carrasco, qu'il y avait Doku qui pouvait
monter. Le rôle que j'ai attribué à Doku était depuis 10 ans sous le rôle de Mertens,
clairement,
de celui qui vient apporter l'estocade finale à une défense qui a,
oui, l'a fait. On verra bien. Il est sur la feuille de match ou pas?
Tout le monde est sur la feuille de match.
Ouais, ok. Alors d'accord.
Je pense puisqu'il y a
non parce qu'il y en a qui sont en tribune parfois.
Messieurs,
on s'en va plus tôt.
C'est le rôle de Van Aken, ça.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? On va se plonger tout de suite dans le match. On va vous laisser aller faire une petite pause aux toilettes ou ailleurs si vous voulez, avant de vous installer confortablement devant le match. On vous souhaite à toutes et à tous une super partie. Plein de bonnes choses pour les Diables ce soir et on se retrouve demain.
Un petit mot, je viens de recevoir un message de Miguel qu'on avait eu en ligne, de notre ami portugais, qui se félicite que Denayer, il se félicite que Denayer ne joue pas.
Ah.
Bah, on voit qu'il ne connaît pas les trois autres. Salut Miguel.
Très bonne soirée à tous, bon match, allez les Diables et à demain.
Au revoir.
À demain, bon match.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Les rediffusions de Radio Judaïca.
Bonjour à tous, c'était génial de vivre le dernier livre de Marceline Loridan-Ivens. Alors c'est un récit qui a été écrit par David Teboul et Isabelle Wechsteinsteg à partir d'interviews réalisées en décembre 2017 et janvier 2018 avec Marceline Loridan-Ivens. C'est publié aux Arènes et c'est génial, c'est vraiment génial de lire les propos recueillis par ces écrivains de Marceline Loridan-Ivens. On est saisi par la joie de vivre de cette femme, ce rire généreux et sarcastique dont elle a toujours été, dont elle a toujours fait preuve. Alors il raconte qu'ils l'ont suivie les dernières semaines de sa vie, qu'ils ont fait partie des fêtes de famille, des mariages, des Shabbats, et que Marceline y était toujours là, en train de s'amuser comme un enfant, attendait que les prières se terminent pour commencer à papoter. C'était une femme qui avait gardé le goût de la vie malgré ses déportations, malgré les drames qu'elle a connus dans sa vie. Elle a été mariée avec deux hommes. Non, il y en a un qui a surtout connu, qui a surtout compté, c'était Joris Ivens, qui était connu pour ses reportages. Marceline l'a accompagnée, elle a réalisé avec lui des reportages en Russie sur le communisme. Elle a réalisé également, elle a milité pour l'Algérie libre. Et puis surtout, elle a réalisé elle-même un reportage sur les camps de la mort en prenant Anouk Aimée comme personnage principal qui, quelque part, était peut-être son reflet. Et elle en a fait un reportage. reportage à Auschwitz. Alors, le mari de Joris Ivens, de Marceline, Joris Ivens, lui disait toujours, il ne faut jamais perdre son enfance, il faut la nourrir, il faut la garder en soi, c'est elle qui nous apporte tout, c'est elle qui nous permet d'oser, comme seuls les enfants peuvent oser. Et c'est finalement ce que Marceline a gardé en elle, c'est ce côté enfantin, c'est ce côté libre, cette volonté de toujours aller plus loin et de rester positive malgré tout. Je dis malgré tout parce que quand elle est rentrée des camps d'Auschwitz, elle a mis du temps, beaucoup de temps, à rentrer à nouveau et revivre une vie presque normale, parce qu'on ne peut pas oublier. Ni Auschwitz, on ne peut pas échapper à ce qu'on a vécu. D'ailleurs, elle disait aux écrivains, la morte que tu étais ne pouvait pas revivre. Tu as longtemps été scandalisé d'arriver à vivre après ce que tu as vécu. C'est ce qu'elle disait avoir écrit. Elle disait aussi, tu ne comprenais pas comment tu pouvais encore faire des gestes quotidiens, regarder les vitrines dans la rue, vivre au jour le jour. Elle dit d'elle-même, je suis restée à l'âge de mon trauma. J'ai été déportée à 15 ans et c'est là qu'elle est restée, justement, elle a cessé de grandir. Alors, Marceline raconte une belle histoire. Elle raconte que lorsqu'elle était à Naples, elle cherchait des cigarettes. Elle a rencontré une bande de jeunes qui l'ont aidée à trouver des cigarettes. Et il y a un enfant qui s'est penché sur son tatouage d'Auschwitz. Alors, elle en avait déjà entendu des grandes. C'est ton numéro de téléphone, c'est quoi ce numéro? Et lui, il a noté son numéro en disant que c'était peut-être, il pensait que c'était le numéro de la loterie et qu'avec ce numéro-là, ce numéro lui rapporterait la chance de gagner justement le gros lot. Et Marceline, elle trouve ça tordant, elle éclate de rire et elle raconte ça dans ce livre. Donc même dans les situations les plus, je dirais pas pathétiques, mais un peu dramatiques, elle finit toujours par y trouver le bon côté des choses. À la fin de sa vie, elle est morte quelques jours après le jour de l'entrée de Kippour, le jour du grand pardon. Et quelques mois plus tôt, elle avait perdu la vue à Jérusalem. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut savoir que le fils d'Abraham, Isaac, lui aussi était devenu aveugle. Ses yeux se sont obscurcis d'avoir trop vu, raconte la Torah. Eh bien, dans sa jeunesse, il avait vu quelque chose, Isaac, qu'il n'avait jamais dû voir lorsqu'il fut placé sur un autel pour être sacrifié par son père. Il avait vu l'impensable et ses yeux s'étaient obscurcis. Et elle dit, Isaac était comme elle, un survivant de l'anéantissement. Et je trouve ça très joli parce que c'est vrai, elle a vu avec ses yeux l'horreur, elle a vu avec ses yeux l'indicible. Et comme Isaac, elle est devenue, elle a perdu la vue un certain moment. Et il faut savoir que la rabbine Delphine Horvilleur lui a rendu un dernier hommage et lui a dit, la tradition juive entend la rébellion et la colère, même tournée contre Dieu. Et comme le dit Marceline, avec moi, il va quand même pouvoir passer un certain moment, un sale quart d'heure, parce que devant moi, il devra quand même plaider sa cause. Alors Marceline, quand elle était jeune, elle vient d'une famille nombreuse où sa mère n'était pas faite pour avoir beaucoup d'enfants. Elle avait un grand frère qui a été mobilisé directement au début de la guerre comme médecin auxiliaire. Il a été envoyé en Syrie. Une grande sœur qui a été engagée dans le maquis. Ces deux aînés ont été élevés au départ en Pologne par les grands-parents. Les parents sont venus en France faire fortune. Petit à petit, ils ont construit une affaire. Ils ont eu Marceline, ils ont eu une autre petite sœur de Marceline, Jacqueline et un autre petit frère, Michel, qui eux échapperont à la guerre parce qu'ils seront cachés dans les Cévennes. Et en fait, les seuls qui n'échapperont pas à la guerre et qui seront déportés, ce sera Marceline et son père. La mère et la grande sœur arriveront à s'échapper, mais le père et elle seront déportés. Et Marceline, en fait, en 41, toute la famille était déjà plus ou moins cachée. Mais finalement, le père revient les chercher parce que, bizarrement, en 1941, il décide d'acquérir un château à Bolène. Un château, le château de Gourdon. Et malgré les lois malgré que les lois anti-juives étaient déjà tout à fait appliquées, il veut faire vivre sa famille là. Dans le village, tout le monde savait qu'ils étaient juifs. Son père, au château, recueillait des gens qu'il voulait faire entrer dans le maquis. Mais la tension monte. Les parents sont prévenus par la grande sœur aînée qui est dans la résistance des arrestations. Et puis, un jour ou l'autre, bien entendu, le château sera encerclé et Marceline, son père, seront déportés. Alors là, une fois qu'ils seront arrêtés, le château va devenir en quelques heures le lieu de rassemblement de tous ceux qui avaient été arrêtés dans le village. Très vite, on voit le caractère et c'est finalement ça qui m'a tant plu dans ce livre. Le caractère de Marceline, le caractère fort, elle ne se laisse pas faire. Elle échappe au viol dans ce château lorsqu'un Allemand veut s'approcher d'elle. Elle hurle comme une folle. Au moment, elle leur répond aux Allemands et au moment lorsqu'elle va être embarquée pour Drancy, elle va voler une robe de chambre qui appartenait à sa mère et qu'elle va garder dans les camps jusqu'à un certain moment où elle devra justement s'en séparer. Et donc dans le train qui l'amène à la prison de Sainte-Anne et puis à celle des Baumettes avant d'arriver finalement à Drancy, elle tente même de s'évader. Donc elle est toujours au qui-vive, elle est toujours remplie d'énergie et de positivisme lorsque le train ralentit. Avec le neveu justement de Ginette Kolinka que vous connaissez certainement tous puisqu'elle a également raconté son périple à Auschwitz dans un livre et elle était en même temps que Marceline et Simone de Beauvoir dans les camps. Et donc Marceline arrive à Auschwitz et comme son père, elle n'y échappera pas, son père va mourir là, elle va le perdre, mais elle dit que malgré le fait que la folie tournait, le fait qu'elle voyait des horreurs et que sa tête ne fonctionnait plus vraiment et qu'elle avait envie de se suicider, elle n'est jamais devenue une musulmane. Les musulmans, c'était ceux qui les déportaient, qui étaient à la frontière de la mort. Et elle disait « Je ne suis jamais devenue comme ça parce que la force intérieure me permettait de continuer ». Il y a une scène d'ailleurs terrible où elle croise après un moment son père dans le camp et elle court vers lui et son père également court vers lui. Et malheureusement, elle reçoit des coups de matraque sur la tête, elle s'évanouit. Mais lorsqu'elle se réveille, elle trouve un oignon que son père a eu le temps de lui glisser dans son vêtement. Et après, elle le reverra encore une fois, mais ayant été prévenue des coups qu'elle avait pris la première fois, elle se taira et ce sera la dernière fois malheureusement qu'elle le verra. Ce qui m'a plu également dans ce livre, c'est que Marceline raconte avec une franchise déroutante que malheureusement dans un camp, on ne peut pas échapper à sa condition et que par moments, malheureusement, elle n'a pas pu faire autrement que faire avec ce qu'on lui disait de faire. Et elle raconte une scène terrible, pardon, où justement, elle est en train d'avancer et il y a un SS qui est devant elle, qui a une schlag à la main et qui est avec son chien. Et il cherchait à la faire avancer plus vite, le chien aboyait. Et devant elle se trouve une petite grecque. Il lui dit « Pousse-la, tu vois bien qu'elle ne marche pas bien ». Et il la bousculait à Marceline, le SS, violemment. Et, ne pouvait, et donc elle n'a pas pu faire autrement que de pousser la petite grecque. Et finalement, ils ont trébuché sur elle et le SS l'a achevée. Et elle dit « C'est une scène terrible qu'elle a oubliée pendant 30 ans ». Parce que la mémoire fonctionne avec des failles et c'est ça qui, heureusement, nous permet de continuer à vivre. Il faut oublier pour continuer à vivre, dit-elle d'elle-même. Moi aussi, j'ai participé à l'extermination. J'ai creusé des trous pour enterrer et brûler les Hongroises. À ma façon, j'ai dû participer aussi à la mort des autres. Il y en a qui ont refusé et qui ont été gazés. Moi, j'ai accepté et donc quelque part j'ai participé aussi à la mort. Donc elle est très honnête, elle dit clairement pour avoir pu échapper à tout ça, bon bien sûr il faut beaucoup de chance, mais quelque part elle a dû obéir parfois et être contrainte à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Elle a d'un autre côté, il y a des belles choses. Elle a volé un kubel, une sorte de grande casserole de 25 litres de soupe pour tout son bloc. Alors quand elle est arrivée, la chef du bloc lui a dit ramène ça directement. On ne prive pas un autre bloc de son bol de soupe. Elle lui a clairement répondu. Marceline lui a répondu, écoute, eh bien, ce sera pour notre bloc. Au moins, je nourrirai tous les autres et je ne prendrai pas le risque de ramener ce chaudron autre part et à sa place, parce que sinon, je vais me faire taper. Donc, c'est une femme qui est tout le temps en train de bouger, en train d'essayer de faire bouger les choses, même dans le camp, en train de s'échapper, en train d'essayer de faire les choses. Et moi, c'est cette grande recherche de liberté et cette énergie folle et cette volonté de survivre qui fait que quelque part elle a survécu et qui la caractérise jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il faut savoir aussi que même en octobre 44, quand elle était emprisonnée à Auschwitz, elle a jeûné à Kippour pour montrer à Dieu le fait qu'elle était mécontente. Il faut le faire, de jeûner dans un camp de concentration. Et elle a décidé après ça que c'était la dernière fois qu'elle jeûnerait, parce que Dieu ne l'a pas écoutée. Et donc, elle ne croit plus en l'existence de Dieu. Donc, c'est une femme qui s'affirme aussi, qui a une force de caractère impressionnante. Au retour, quand elle est rentrée, son père n'est pas rentré. Elle n'a pas retrouvé la compassion et la tendresse nécessaires. Les gens ne comprenaient pas. Sa mère ne comprenait pas qu'elle voulait dormir par terre, qu'elle mangeait salement, qu'elle faisait des cauchemars. Elle n'avait qu'une envie, sa mère, c'est de la marier, alors que Marceline n'avait qu'une envie, c'est de découvrir la vie, de découvrir Paris avec ses cafés littéraires et de découvrir les choses. Elle a fait une première tentative de suicide après un internement au sanatorium en Suisse, près de Cran-sur-Sierre, un deuxième à 20 ans où elle a voulu se jeter dans la Seine parce que la sortie du camp lui paraissait impossible. Elle se sentait toujours encerclée de fils de barbelés et pour pouvoir grandir, elle a eu besoin de prendre des distances avec sa famille, avec ses proches, avec sa mère. D'ailleurs, elle dira que grâce à son mari, son deuxième mari surtout, elle découvrira l'amour et la tendresse qui lui permettront justement d'avancer dans la vie. Elle n'a jamais voulu avoir d'enfant. Elle le dit d'ailleurs très clairement, elle a vu trop d'enfants tués et donc elle est restée sur sa position. Qu'on comprend, parce que beaucoup de gens ont eu malheureusement des enfants. Oui, il fallait continuer la vie, mais dans quel état elle a été et c'est ça, c'est cette force, ces prises de décision qui la caractérisent. Alors je voulais encore lire une dernière page avant de vous laisser, où elle parle justement de retransmission, et elle parle, je trouve, autant la retransmission est très importante parce qu'elle a passé des années, elle aussi, à parler aux enfants, à parler aux autres générations. Mais à un certain moment, elle a arrêté. Et voici ce qu'elle dit. Quand on veut transmettre, il faut prendre des précautions. On ne peut pas tout dire parce qu'il faut protéger aussi ceux qui vous écoutent. Quand on parle à des enfants, par exemple, on ne peut pas tout raconter, c'est trop dur. Alors on atténue un peu, c'est inévitable. Mais je connais une autre sorte de transformation, plus dangereuse, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est en parlant dans les écoles que je m'en suis aperçue. À mesure que je répétais la même histoire, les stéréotypes s'installaient. Je commençais à fabriquer un autre langage. Aujourd'hui, je ne veux plus aller dans les écoles. Il y a un moment où l'on ne fait plus que se répéter. J'ai compris que la répétition, c'est la pire des choses. Les stéréotypes me sont devenus insupportables. À force de raconter les mêmes histoires, ces histoires se figent, elles s'ossifient. On n'est plus dans la vérité des choses. Celui qui raconte amoindrit ou embellit la vérité. Moi, quand j'ai senti que je me répétais, j'ai dit stop, c'est fini pour moi. Ce n'est pas des enfants que j'ai le plus peur, c'est du public adulte. Les enfants, eux, comprennent tout. Là encore, c'est une décision assez excessive, mais que je comprends. Et toutes ces décisions à Marceline ont toujours été très excessives. Elle n'a jamais changé, je trouve, d'avis dans ce qu'elle disait. Ça a pu parfois amener des questionnements. Mais pourtant, il y a beaucoup de logique dedans. C'est un livre qui dresse un portrait remarquable d'une femme impressionnante. C'était génial de vivre. Propos recueillis par David Teboul et par sa comparse Isabelle Wechsteinsteg. C'est publié aux Arènes et ça raconte l'histoire de cette chère Marceline Loridan-Evans. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.
Thank you. Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Radio Judaïca vous propose une rediffusion.
Au risque de s'entendre, Véronique Zana.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Judaïca dans l'émission Au risque de s'entendre. Je suis Véronique Zana, psychanalyste, et je reçois aujourd'hui Nima Sarkechik qui vient partager un petit moment avec nous. Bonjour Nima.
Bonjour Véronique.
Alors vous êtes pianiste, artiste franco-iranien, précision intéressante. Et donc j'attaque avec cette petite phrase familière. Comment ça s'est passé pour vous, ce risque d'être vous-même? Qu'est-ce que ça a pris comme tonalité? Comment ça s'est déroulé? Racontez-nous.
Par le hasard des circonstances de la vie, je pense qu'on en est tous un petit peu là. Je n'ai pas le sentiment d'être une exception sur cette quête de moi-même.
Alors le risque, finalement, ça s'est matérialisé comment?
Le risque d'avancer vers une forme d'authenticité, je dirais que avant que ça devienne un risque, ça a été quelque chose de tout à fait inattendu. La rencontre avec soi-même, je pense, ne découle pas forcément de quelque chose de volontaire. En tout cas, dans la vie qui a été la mienne, je crois que les turbulences y ont été pour beaucoup. L'inconfort, la dichotomie entre l'agréable et le désagréable, c'est peut-être la seule référence que je considère comme étant comme étant le guide principal sur les chemins de la vie. Et je crois que dans mon univers personnel, dans mon parcours de l'enfance, il y a un certain nombre d'éléments qui ont contribué à me faire chercher la voie de la joie.
Alors la voix, oui, c'est intéressant, ce mot qui peut s'entendre de plusieurs manières. Est-ce que cette voix de la joie, est-ce que c'est déjà le prémisse de la musique? Et comment ça s'est rencontré, cette musique avec vous?
De façon tout à fait aussi fortuite, en ce sens que j'ai eu un père qui était mélomane, qui a appris le violon en Iran, tout seul, avec un maître qu'il voyait de temps en temps. Et il a entretenu, si vous voulez, l'habitude que la musique en société pouvait être un biais de partage et à plus large titre de liant.
Oui.
Je ne sais pas si c'était vraisemblablement pas vécu consciemment, mais plus tard, par la suite, me sont revenues des images habitées par cette réalité, par cette énergie consciemment vécue, de mon père qui sort son violon dans un espace social délimité par le cercle de l'amitié. Et sortir son violon et jouer à même le sol, avec nous tous assis sur le sol. Et à ce moment-là, ça a été à représenter, par exemple, ce moment-là, cette image résiduelle qui m'est restée de cette enfance-là, me conforte dans la sensation de relier les gens par la musique. Relier les gens par une émotion, un stimulus artistique que chacun va vivre à sa façon. Donc accueillir le son de l'instrument à sa manière et le laisser évidemment mettre en fréquence de résonance les cordes qui caractérisent notre identité profonde. Je pense qu'à ce moment-là, l'émotion musicale ne triche pas.
Alors là, c'est un symbole quand même très fort, hein, même le sol. Hein, on sent un ancrage. Donc vous parlez de votre père qui joue du violon. Vous, c'est plutôt le piano? Vous êtes essayé au violon ou ça a été directement le piano?
Ça a été directement le piano. Encore une fois, mon père m'avait offert jadis une petite cassette de piano. J'avais aussi un petit lecteur de cassettes. J'avais aussi un bon tampi. C'est piano jouet orgue
qui marchait. Je crois qu'on se reconnaît tous dans ces petits mots-là.
Quatre énormes piles qui étaient évidemment à sec en l'espace de 10 minutes. Et je me souviens que je m'amusais beaucoup à écouter cette cassette et à imaginer que c'est moi qui jouais. Alors, est-ce qu'il y a une part égotique qui intervient dans ce processus? Probablement. Est-ce qu'on parle véritablement d'ego? Je ne pense pas que ce soit l'orgueil des prétentions qui interviennent là-dedans. Celle qui consiste à être écouté.
Oui, alors écouter, être écouté, donner de la voix, on est toujours cohérent là. Alors, cette liberté, ce risque, parce que donc vous avez toujours baigné dans la musique, musique classique, je suppose. Qu'est-ce qui peut faire qu'on prend un risque et sortir du cadre ?
La prise de conscience que l'on n'est pas à son endroit.
Alors, expliquez-nous ça. Qu'est-ce que dans la musique, dans le classique, ne pas être à son endroit pourrait vouloir dire, et finalement, votre endroit, vous l'avez porté où ?
Je pense que le mot le plus, je dirais, significatif, si d'aventure il s'agissait de définir un lieu, c'est ailleurs.
Oui.
À savoir que l'on ne sait pas tellement où l'on va. Et c'est précisément la raison pour laquelle ça vaudrait le coup d'y aller en souriant. Ça, c'est Nicolas Bouvier qui dit ça dans son délicieux usage du monde. Où le voyage devient une quête vers un ailleurs que l'on ne connaît pas encore. Lorsque l'on tente de surmonter un état de grande détresse, le réflexe pour se rassurer pourrait devenir de... Enfin, en tout cas, c'était le mien, et je l'ai constaté par le hasard de ma vie aussi il n'y a pas très longtemps... le réflexe de l'humain peut-être serait de s'accrocher à un référentiel connu, par voie de conséquence, un référentiel déjà vu, donc du passé. Ce référentiel qui consiste à se dire « je veux être comme ça, je veux ressentir ce bonheur que jadis je vivais, je veux me réalléger dans mon rapport au monde et à moi-même, exactement comme j'étais lorsque j'avais tel âge ». Lorsque j'ai vécu ceci ou cela, ce qui finalement pervertit complètement la notion d'avancer vers l'ailleurs, qui consiste à aller justement vers l'inconnu.
Oui, ça peut se discuter, parce que parfois, effectivement, cette saveur déjà vécue, on a envie de la revivre, mais ça peut être dans cet ailleurs.
Eh bien, moi, je pense que vouloir revivre une saveur déjà vécue est une autre façon de se freiner.
D'accord.
Donc accepter, en tout cas dans la tradition spirituelle, on peut le sentir, notamment la tradition indienne, accepter que aller vers l'avant, avancer ou chercher la quête spirituelle de chacun est une quête vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Et ce lâcher prise là, accepter que l'on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas et que c'est ce qui est bien pour nous, n'est pas évident à entendre. On est dans un système de contrôle. On a peur aussi de le perdre, ce contrôle.
Alors, c'est vrai que la peur, ça prend plusieurs tonalités. Cet ailleurs à poursuivre, cette quête, c'est ça qui vous a donné le ressort de sortir d'un cadre qui ne vous convenait pas ?
C'est le mal-être à l'endroit où j'étais, le mal-être à l'endroit où j'ai toujours cru qu'il fallait que je sois.
Alors, quand vous dites le mal, est-ce que c'est la problématique masculine qui vient se dire là ?
J'espère pas. Mon discours n'est pas consciemment genré, en tout cas.
Ça, c'est clair.
Oui.
Alors, poursuivez.
Le mal-être au sens négatif du terme.
Alors, négatif, qu'est-ce que ce serait, ce négatif ?
Au sens inconfortable du terme. À l'endroit où je suis, à l'endroit où j'étais, je ne me sentais pas complet. Je me sentais comme en train de renoncer ou de rejeter quelque chose qui vivait en moi, à savoir le contact avec l'autre.
Donc vous étiez dans une dimension de la musique dont vous aviez l'impression qu'elle vous isolait plus qu'elle rétablissait le contact avec les autres.
Exactement. Elle m'isolait non pas seulement en termes physiques, pragmatiques, j'entends, matériels. Je pouvais être près du public, je pouvais être près des gens, mais près d'une authenticité qui se perçoit parfois tant dans le regard que dans l'attitude, mais plus que jamais dans une forme de curiosité de l'autre. Je sentais que on me plaçait tout le temps systématiquement après les concerts dans une espèce de tour d'ivoire, dans les concerts de musique classique que j'ai eu l'occasion de donner un peu de par le monde, mais que je donne encore d'ailleurs, mais que j'ai toujours eu l'impression que cette séparation entre l'artiste et le public était une perversion, en fait. Était quelque chose de strictement fabriqué par ceux qui allaient consommer cet art. Ils ont besoin de consommer aussi le rapport à l'artiste, au sens inaccessible du terme. Encore une fois, cet ailleurs qui devient accessible, cet état d'artiste, cette inspiration presque démiurgique que l'on colle sur l'artiste, nous fait fantasmer. C'est fantasmant.
Oui, le fantasme, ça c'est clair. Vous avez très bien mis en valeur la notion de scène, hein, le piédestal, là où l'artiste se tient. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot de perversion. Donc du coup, je peux pas m'empêcher de penser à votre père qui pourtant réunissait tout le monde assis par terre. Est-ce qu'il avait aussi cette vision de l'artiste un peu élitiste comme ça, ou c'est une réussite peut-être dans ce sens qu'il aurait souhaité pour vous ?
Je pense que mon père a cela de particulier qu'il n'a jamais vraiment parlé à cœur ouvert de ce qu'il est. Et par voie de conséquence, tout ce que je vais pouvoir dire de lui sera uniquement tributaire de ce que j'ai vu de lui. Et je pense que je n'ai pas encore lu véritablement ce qu'il ressent sincèrement et authentiquement vis-à-vis de la musique. Ce que je peux concevoir aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sans fierté lorsqu'il parle de ses enfants. Parce que mon grand frère aussi est musicien. Lorsqu'il retourne en Iran notamment, il n'est pas rare que je reçoive des messages de ma famille iranienne que j'ai jamais vue et qui me félicitent suite à ce que mon père a pu colporter. Donc il transporte avec lui un baluchon d'orgueil.
Comme nous tous,
dont il, oui, absolument, c'est sans jugement, dont il a hérité du devenir de ses enfants, dont il ne s'est pas occupé. C'est ce qui est quand même intéressant.
Voilà un retour intéressant, effectivement, on l'a entendu. Donc là, on navigue également entre deux pays, puisque franco-iranien, on a navigué entre deux lieux de musique aussi, et on a la musique de manière éthérée, et vous revenez régulièrement au corps. Alors finalement, le lien entre la musique et le corps, comment vous pourriez en dire deux mots ?
Le corps étant le seul intermédiaire entre ce d'aucuns pourraient appeler l'esprit, l'âme ou la personnalité, ce que l'on perçoit du monde, est directement tributaire du corps. Donc le rapport que l'on a au monde ne peut passer que par lui. Par voie de conséquence, l'expression artistique devient corporelle lorsqu'il s'agit de l'ancrer sur le réel. Si je veux passer de l'inspiration à la formalisation concrète, à la choséification de la musique, de l'art en général, le geste devient le seul biais par lequel on peut exprimer cet art. Si on enlève un piano de la scène pendant que le pianiste joue, le pianiste continuera de bouger son corps devant un clavier invisible. Il s'agit donc d'une chorégraphie. La partition est une chorégraphie écrite. Il en va ainsi de la danse, mais il en va aussi de la peinture. Si on enlève la toile et le pinceau, ça devient juste un geste.
Absolument.
En fonction
on est
du
dans
geste,
le temps d'avant. Là.
Absolument. En fonction du geste que l'on va créer, va s'inscrire sur la toile une énergie spécifique. En fonction du geste que l'on va déployer au clavier, un son particulier va aussi émerger du piano. On parle beaucoup de poids du corps, on parle beaucoup de répartition des énergies musculaires, on parle beaucoup de centre de gravité. Comment est-ce qu'on prend conscience que le bas du dos, mais aussi les pieds, lorsqu'ils sont bien ancrés dans le sol, délient les doigts. Donc, à un certain degré de connaissance de son propre corps, on peut concevoir que la relation à lui devient absolument indispensable pour pouvoir parfaire et affiner le sens de ce que l'on veut faire passer comme message. Ainsi en va-t-il aussi des mots, ainsi en va-t-il du son de sa voix et de toute la chorégraphie du visage lorsqu'on est habité par une émotion. D'où pour moi l'aliénation terrible qu'a pu constituer le port du masque. Parce qu'on était inévitablement caché de la chorégraphie du visage, qui est pourtant tellement expressive.
Effectivement, donc là on entend l'importance du corps, on entend aussi vos sources d'étonnement, et vous nous avez apporté un morceau de musique qui est venu vous interroger sur un son complètement nouveau, donc on va partager ça avec nos auditeurs, et puis on en reparle après.
Thank you.
voilà, voilà un voyage très étonnant avec et une musique et une voix qui va dans des tonalités incroyables. Comment vous l'avez rencontré, cette musique-là ?
J'étais chez un ami du côté de Vaison-la-Romaine, à Sainte-Jalle, très précisément, un ami directeur d'école de musique dans le coin, de Buis-les-Baronnies. Et j'y ai passé quelques temps, et là, en fait, il m'a fait écouter cette musique. On s'écoute beaucoup de musique, et c'est un ami à lui, ce chanteur qui est chinois, qui joue de la musique mongole, et qui chante et qui va chercher dans ses sonorités les plus